cet ordinateur. Bien, alors j'éteins la lumière. Donc, je vais commencer avec aujourd'hui une série de cours qui seront quasiment tous consacrés au 18e et 19e siècle. Donc, on va quitter, si vous voulez, tout ce qui était un peu Renaissance, baroque, pour arriver dans un grand changement sur lequel je développerai un petit peu, très important au niveau même de l'esthétique, on va dire. Et on va retrouver, cette fois-ci, on va retrouver beaucoup d'artistes français. C'est-à-dire qu'on va arriver en France. Jusqu'à présent, j'ai très peu abordé des artistes français. Et on peut dire qu'il y a quelque chose qui est quand même assez notable, effectivement, puis même très important dans l'histoire de l'art, c'est bête à dire, c'est la Révolution française. Ça a un impact très profond, parce que ça correspond aussi à une société qui change radicalement. Il ne faut pas oublier non plus que, quand même, au XVIIIe et au XIXe siècle, en Europe, la France a quasiment deux fois plus d'habitants que n'importe quel pays voisin, hein, voire deux, voire trois fois plus que l'Angleterre, que, en gros, la Prusse, etc., Italie, Espagne, on n'en parle pas. Donc, c'est vraiment un pays qui, de ce point de vue-là, est beaucoup plus développé, même en serait-ce qu'en termes de population, y compris d'industrie, comparable avec l'Angleterre, mais c'est quelque chose qui est très important. Et puis, circulation des idées, rappelez-vous que le français est parlé en Angleterre, en Russie, dans toutes les cours, etc. C'est vraiment la langue aussi, souvent, du savoir, de la philosophie, etc. Alors, et on va voir qu'au niveau de la peinture, c'est aussi très important. Alors, je commence ce semestre avec Watteau, Antoine Watteau, dont les dates de naissance sont ici, 1784-1821. Attendez, c'est le contraire, c'est 1681, évidemment, parce qu'il est, lui, en plein dans le siècle, on va dire, né dans le siècle de Louis XIV. Il lui survit un tout petit peu, quelques années, puisque Louis XIV meurt en 1715. Et vous voyez, alors, il meurt jeune, hein, 36 ans. Tuberculose, vraisemblablement. Et vous avez à côté un portrait de Rosalba Carriera, qui est à peu près de sa génération, qui est un peu plus âgée que lui. Il se connaissait d'ailleurs, puisque c'est elle qui a fait le portrait de Watteau. Et j'ai rapproché ces deux artistes pour des raisons, on va dire, presque psychologiques, puisque ce sont deux artistes qui ont des difficultés. C'est la première fois qu'on commence à savoir ça aussi de certains peintres par rapport à leur propre image. C'est-à-dire qu'on verra comment Watteau est un jeune artiste qui arrive, il est originaire du Nord, de la France, d'une famille, son père était artisan et maître couvreur, tuilier, etc. Apparemment une brute qui les battait, ses fils, donc un milieu pas du tout favorable. Watteau, quand même, va faire des études d'art, malgré cela, et il va arriver presque en bohème à Paris, et on dit de lui que toute sa vie, il avait un comportement un peu soumis et un peu à distance, presque de crainte, craintif, et vraisemblablement dû à une éducation trop sévère, c'est terrible, etc. Donc quelqu'un de sensible, plutôt discret, qui vient d'une certaine... qui arrive aux cours parisiennes et dans la noblesse parisienne avec un aspect un peu marginal, y compris socialement. Il est presque, il va errer pendant un certain temps de quartier en quartier dans Paris, et c'est son talent qui va le faire remarquer par des amis, fréquente quelques artistes, qui vont finalement ouvrir la porte de certains aristocrates qui seront des mécènes, qui auront des commandes, etc. Et plus tard, il rentrera à l'Académie royale de peinture. Mais donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est à ce côté-là. Et puis, Rosalba Carriera, je pense que vous ne connaissez pas, c'est une très, très grande portraitrice pastelliste, exactement de cette même époque, où il y a vous avez des grands pastellistes. J'aborderai la question plus tard, vous l'avez déjà abordé, avec Quentin de la Tour. Voilà. Et Rosalba Carriera, donc une très grande pastelliste, portraitiste, mais qui était persuadée d'être laide, et on disait qu'elle était laide, et on lui disait qu'étant laide, elle ne pouvait pas faire de belles peintures. Donc vous avez là aussi quelqu'un. On avait eu la même situation avec Giulia Lama, à Venise, hein, qui était un grand peintre Piazzetta, mais donc des femmes qui, en plus d'être de très très bonnes artistes, mais se retrouvaient marginalisées, pas comme femmes, et en plus parce que on leur demandait d'être belles, ce qu'on ne demandait pas aux hommes artistes, entre guillemets. Donc vous avez là une double, triple. Et ils étaient assez proches. On peut imaginer aussi une certaine complicité entre quelqu'un qui a cette espèce de discrétion, qui n'est pas du tout un conquérant, séducteur, etc., comme le Goya, qu'on verra plus tard. Donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu parfois cela. Alors pourquoi je le développe aussi? D'abord parce que ça me permet de parler de Rosalba Carrera un petit peu, et on va voir que justement le regard que porte Watteau sur un monde bien particulier repose peut-être vraisemblablement aussi sur une sensibilité très personnelle, ce qu'on avait rarement vu jusqu'à présent. Quand on parlait d'artistes, on ne parlait pas tellement de leur sensibilité ou de leur psychologie. Alors, je vais attention aux dates, hein. Watteau le corrige. Alors, Watteau, il est à cheval, effectivement, sur les rois absolument fameux et impressionnants. Voilà une peinture de Hyacinthe Rigaud, deux peintures sur Louis XIV et Louis XV, où d'abord on voit aussi le type de peinture, grand héritage quand même de la Renaissance, d'un classicisme, où on a une maîtrise totale et il n'y a aucun laisser-aller. Alors, je suis désolé pour le biais, là, je n'ai pas réussi à corriger ça. Et moi, je sais que quand j'étais en primaire ou même en collège, j'avais les yeux fixés sur cette peinture, j'étais sidéré par la représentation de la robe, la roucolante de Louis XIV et de la représentation de l'hermine, de l'or, etc. Ça, mais comment est-ce possible, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose ici, une maîtrise totale qui correspond aussi à l'état d'esprit de Louis XIV, c'est de maîtriser tout, hein, terre, les mers, l'économie. C'est Louis XIV qui lance aussi la grande description de la France par les cartes de Cassini. Donc Louis XIV, c'est vraiment le début d'une notion de maîtrise totale des éléments. En ce sens-là aussi, il est très moderne. Il est très moderne, il annonce un peu aussi le 19e siècle de maîtrise du territoire, maîtrise des populations, maîtrise des frontières, maîtrise des flux, de l'économie, etc. Pas du tout dans une de roi, ça, un peu de part. Alors Louis XV va poursuivre un peu ce œuvre-là, mais en introduisant là, quelque chose qui se fracture progressivement du point de vue de l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il n'aura pas cette autorité et cette maîtrise. Et il se laissera, on va dire, le bien-aimé, aller un petit peu dans les avantages et les privilèges de la cour plutôt que une véritable gloire internationale. Alors, mais toujours est-il que Watteau arrive dans un siècle où vous avez ce type de peinture qui domine, hein, qui est vraiment. Alors, c'est une peinture de portrait, hein, royal, donc c'est pas n'importe quoi, mais extrêmement maîtrisée. Hein. Si on zoome là, on va dire, s'efface au bénéfice de la peinture. On ne voit pas de gestes, on ne voit pas de traces. On ne voit pas le point de vue du peintre, on ne voit pas d'émotion, il est encore au service de son sujet, et le sujet bah, est la peinture religieuse. S'il s'agit du roi, du divin, nous tout de même. On est vraiment là aussi dans l'établissement d'un pouvoir absolu. Ce sera important. Alors, ça c'était pour donner quelques informations sur Watteau, et je voulais prendre comme repère cette peinture, qui est une de ses dernières d'ailleurs, hein, qui s'appelle La chanson d'amour. C'est surtout pour ce type de peinture que Watteau est connu, et d'ailleurs, c'est très emblématique de son œuvre. Alors, je vais en parler un petit peu. Et vous avez donc ici une scène où il y a plusieurs personnages, deux en beaucoup plus grand, un joueur de, je ne sais pas si on dit guitare, instrument à cordes, une jeune femme qui lit la musique. À côté, vous avez quelques couples que l'on aperçoit. Il y a au moins deux couples, puisqu'on voit ici un couple là, un autre couple ici, et ici une femme avec enfant, etc. Et puis vous avez une statue, et ce qui va être caractéristique de Watteau, par exemple, on voit la différence de la peinture de Hyacinthe Rigaud, par exemple, c'est que vous avez une touche extrêmement variée. Vous avez des endroits qui sont extrêmement flous, par exemple sur les côtés, hein, qui semblent brossés presque à peine, avec très peu de matière. hein, si on peut zoomer par exemple là, dans ces zones-là, qui semblent presque des esquisses, où vous avez du flou, donc pas du tout de précision ni de détail, au contraire, hein, il y a une sorte de laisser-aller assez remarquable. Vous avez des zones qui sont d'une grande précision avec presque des effets de matière. On voit une peinture relativement épaisse, hein, on le voit ici, on voit même des coups de pinceau, etc., par endroits. Une lumière qui est très différente. Vous avez ici une lumière brillante et à côté, vous avez une lumière douce et floue. Donc, vous avez des choses qui sont mouvantes, on va dire. La peinture elle-même, elle est extrêmement variée. Et ce qui est mouvant également, c'est le sol. Et là, c'est quelque chose qui est même caractéristique de Watteau, c'est qu'on n'est pas du tout devant un sol, on va dire, carrelage ou la dalle ou l'esplanade. On est dans quelque chose qui semble se dérober. Hein, dont on a du mal à tenir. Et on voit bien que, d'ailleurs, les personnages ici ne sont pas sur le même terrain que ceux qui sont derrière. Le musicien semble au-dessus de la jeune fille, et vous avez là quelque chose qui semble incertain au niveau du sol, incertain au niveau y compris de la lumière. Est-ce que c'est le jour, le soir, le matin? Est-ce qu'il y a de la brume, de la lumière? Les lieux sont aussi non seulement confus au niveau de l'espace, du sol, mais des lieux représentés, puisque c'est un parc, est-ce que c'est une forêt, qu'est-ce qu'on voit au loin. Vous avez une impression, malgré tout, d'intimité et de solitude, parce qu'on est loin de toute architecture, de tout artefact humain. Il y a quelque chose ici qui semble un petit peu retenu sur les individus et leur rapport. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que le musicien, de façon assez claire, semble se pencher plus sur le décolleté de la jeune fille que sur la guitare et que sur la portée de musique, qui de toute façon est à l'envers. Et vous avez ici une sorte de fausseté dans le comportement du musicien, puisque la jeune fille, elle, semble ingénue de ce point de vue-là, présentée, intéressée par la portée musicale, etc. Et d'ailleurs, les rapports alors à dire de séduction, plus qu'amoureux, les rapports de séduction, c'est quelque chose qui va être un thème totalement récurrent chez Watteau, et mais à chaque fois dans un contexte qui est un contexte d'incertitude, de flou, un contexte même parfois de déséquilibre. Et vous avez ici des couples, hein, qui sont dans des attitudes différentes. Là, vous avez un enfant, ici, donc une référence peut-être à la maternité, et là, vous avez des couples qui semble s'éloigner, et on devine même ici encore d'autres personnages. Alors, cette idée d'être entre bandes de jeunes, parce que c'est un petit peu ça aussi, et j'utilise un terme bande, de séduire ou de flirter ou de draguer, mais devant les autres aussi. Ça, c'est quelque chose qui sera assez typique de ce qu'on appelle le libertinage du XVIIIe siècle, qui est justement de relativiser la profondeur de véritables sentiments amoureux au bénéfice d'un jeu de séduction, un jeu de pouvoir. Et le jeu de pouvoir n'est valable que s'il y en a d'autres qui sont témoins. On le sait, leur libertinage, c'est ça. C'est que ça n'a d'intérêt de montrer qu'on peut séduire quelqu'un que si les autres sont témoins de cela. C'est une des caractéristiques, et on l'a dans... J'oublie toujours le nom de ce roman épistolaire, c'est dingue, à chaque fois je le dis, mais fameux, là, de cette période-là, du libertinage. Et on sait aussi que le XVIIIe siècle, ça sera le siècle de Casanova, de Sade, etc., Diderot, avec un libertinage plus équilibré, plus juste, on va dire, moins cynique. Et on va voir autour de Watteau, on va aborder pas mal de ces questions-là, puisque vous allez voir, et j'espère pouvoir vous montrer, que c'est quelque chose qui, chez lui, est récurrent. Alors d'ailleurs, les sujets qu'il va peindre, ça c'est quand il commence à être proche de certains grands aristocrates au château de Montmorency, puis ensuite à la cour, etc. En 1717, là, il est peintre de l'Académie royale, donc vraisemblablement, il s'agit de Versailles ou des parcs royaux. Et à ce propos-là, justement, qui est-ce que va fréquenter Watteau en étant au milieu des aristocrates? Eh bien, des gens qui n'ont pas du tout la même origine que lui, des gens qui n'ont pas du tout la même histoire que lui. Des gens qui vont jouer à des jeux de l'amour avec un certain cynisme, alors que lui, on l'a vu, est beaucoup plus discret, délicat, sensible, fragile, c'est pas du tout un conquérant, c'est pas du tout quelqu'un qui se met en avant. Et on le voit dans certaines de ses peintures, il est aussi dans un monde qui est coupé de la réalité. La caractéristique de l'aristocratie autour de Louis XIV, puis de Louis XV, Louis XVI, c'est qu'elle se coupe du monde réel. La construction de Versailles, un des objectifs les plus importants, c'est quitter Paris. C'est quitter Paris pour que la cour et les aristocrates ne soient plus confrontés au peuple. Plus confrontés toujours. Donc ils ont leur propre monde. C'est un microcosme gigantesque, c'est un monde à part, c'est une sorte de bulle qui se coupe du réel. Le réel, Louis XIV était parfaitement au courant avec ses ministres pour conquérir, maîtriser le monde, etc. Mais la cour et les aristocrates, eux, se protègent en même temps de cette espèce de bruit du monde, de dureté du monde qui est en train de se construire. Et vous avez un décalage assez important. Et là, vous avez une flopée de jeunes aristocrates totalement oisifs, qui n'ont pas le droit de travailler, qui sont coupés du monde et qui sont dans, effectivement, Versailles ou les parcs, qui sont eux aussi réellement emmurés, hein, des grandes propriétés encore entièrement emmurées, et qui n'ont rien à faire, sinon que justement cette oisiveté jouait à des jeux pour se donner un peu de piment, et bien effectivement, eux-mêmes, on va dire, sont sociologiquement et socialement déstabilisés, ils n'ont pas de réelle fonction. Donc vous imaginez que le divertissement, effectivement, pour se donner de l'importance, du piment, et bien vous avez cette espèce de jeu un peu cynique entre eux, etc. Et puis, il faut se reconnaître aussi entre soi. Alors, Watteau est un peu témoin de ce monde-là, très paradoxal, lui qui connaît l'autre monde. Et on peut dire que c'est ce qu'il peint, d'où une dimension un peu mélancolique dans ses peintures, où l'on voit effectivement des parcs, toujours avec ces lumières, ces magnifiques lumières dorées, qui, on ne sait pas si c'est le soir ou le matin, etc., avec une légère inquiétude. Parce que vous avez les ombres, vous avez toujours des territoires incertains, des sols qui se dérobent sous les pas, des scènes de groupe où vous avez plusieurs couples qui se regardent les uns les autres. Regardez par exemple ce qui est typique, le couple ici qui s'en va et qui est en train de regarder ce que font les autres. Eux-ci sont témoins du rapport de ce personnage avec les autres, etc. Et vous avez ici des statues, souvent Vénus, qui sont un peu une sorte de, qui donnent le la, hein, de l'ambiance qui doit prévaloir dans ces rassemblements. Mais toujours cette espèce de pénombre d'habits et de personnages qui semblent aussi eux-mêmes très peu campés sur le sol. Hein, vous avez l'impression d'avoir un peu des silhouettes dans des habits brillants, mais qui semblent avoir des corps un petit peu avec peu de consistance, on va dire, qui sont essentiellement dans la brillance, c'est-à-dire qu'ils sont qui reçoivent la lumière, mais qui eux-mêmes ne dégagent pas beaucoup. Et autour, le flou aussi. Alors le flou, du point de vue pictural, c'est remarquable, parce que Watteau ose laisser des zones de ses peintures qui sont à peine brossées ou ébauchées. Hein. Et à la différence de beaucoup d'artistes classiques ou néoclassiques qui vont travailler sur la maîtrise. En ce sens-là, Watteau est déjà quelqu'un qui introduit une sorte de rupture dans, on va dire, l'idéologie de la maîtrise, qui est quand même l'idéologie classique française. On maîtrise tout, compris jusqu'au jardin à la française. D'ailleurs, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le jardin à la française, c'est les côtés, justement, où tout d'un coup, ça s'échappe vers une nature un petit peu plus complexe. Hein. Et là, c'est assez typique. Et puis, il va peindre ces jeunes qui sont souvent, justement, un petit peu oisifs. Alors, le thème de la musique aussi, on va le retrouver souvent chez lui, parce que c'est un prétexte. On va retrouver souvent le même, semble-t-il, le même personnage, qui est ici comme celui de son de musique, avec le même costume, le même chapeau, le même instrument. Enfin, c'est pas toujours le même instrument. Il y a une mandoline et ici une sorte de guitare. Là, vous avez ses enfants, une jeune fille qui fait la musique et, hop, pourquoi j'ai ça? Et le même le chapeau, etc. Alors, apparemment, vraisemblablement, il s'agirait d'un personnage avec son costume, ses instruments de musique et son comportement, qui s'appelle Mezzettine, qui est un personnage inventé quelques années auparavant, mais vers 1680, presque au moment de la naissance de Watteau, dans la comédie italienne, pour compenser un peu Arlequin. Enfin, c'est une sorte de double Arlequin, mais qui aurait servi, d'ailleurs, dit-on, à Molière pour un modèle pour Scapin. Donc on est dans un personnage aussi de comédie, donc on est aussi dans du jeu. Et Scapin, c'est celui-ci qui trompe, hein, c'est le personnage trompeur, c'est celui qui fait des blagues aussi, qui entourloupe, etc. Alors il n'a pas les caractéristiques du Scapin qu'on voit de Molière, mais vraisemblablement c'est quelqu'un qui aussi, on va dire, abuse aussi et joue, c'est un joueur. Et là on est encore dans le même sujet. Donc il va le peindre assez souvent, on le voit ici, soit en groupe, soit ici seul, avec toujours une statue, toujours cette végétation absolument magnifiquement pensée par Watteau. Et voilà d'ailleurs quelques dessins de Watteau, toujours sur le même personnage. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui va travailler souvent, longtemps, avec des croquis pris sur le vif. Juste un truc, alors les croquis de Watteau d'ailleurs sont extraordinaires. Vous avez sur la base Joconde sur Internet, vous allez sur la base Joconde qui sont les stocks, l'accès aux dessins de tous les musées français. Et il y a à peu près 800 dessins de Watteau qui sont absolument prodigieux. On voit que c'est un observateur extraordinaire. Hein, extraordinaire, les anatomies, les plis, les postures, les visages, c'est d'une très grande liberté et c'est un véritable virtuose. On peut comprendre que très vite, effectivement, ses dessins et sa peinture aient attiré le regard d'autres artistes qui l'ont un peu poussé, qui l'ont fait parce que il a effectivement un regard d'une acuité extraordinaire, comme on le voit, et en quelques coups, même l'anatomie, la posture, les volumes, avec très peu de retouches, très peu de prises, dans quelque chose aussi de libre chez lui. Il y a vraiment aussi ce recul et cette liberté, et une grande maîtrise, mais qui n'est pas dans... Il ne va pas tout dominer avec une sorte de frénésie de détail, c'est au contraire une certaine virtuosité qui lui permet de se laisser aller également. Alors voilà, on retrouve encore, vous voyez, la surprise, la leçon de chant, etc. Et presque toujours, la musique est ici une sorte d'instrument aussi de séduction et voire de tromperie, puisque là, au même moment où il est en train de jouer de la musique, la jeune fille est ici saisie un petit peu par surprise, entre guillemets, par un des complices. Et ici, le personnage Mézétine est complice, évidemment, comme s'il avait prévu le coup avec son ami pour abuser finalement de la surprise de cette jeune femme. Alors du point de vue, on trouve toujours une sorte de façon de faire qui est presque sa marque, c'est-à-dire au sens strict c'est sa touche, c'est la différence de traitement entre les drapés, y compris la lumière et la matière des drapés et les corps et le paysage, hein, comme si c'était une sorte de contrepoint entre une sorte de brillance presque excessive, parce qu'on se demande d'où vient la lumière, parfois pour une telle brillance, et même un jeu sur les matières, les satins, les velours, les soies, qui sont absolument remarquables. Donc c'est aussi quelqu'un du point de vue des vêtements qui est prodigieux. Et l'air de rien, les paysages, en quelques coups de pinceau, sont très justes. Les dégradés, les modelés, le flou, n'est pas une sorte d'abandon de la question, c'est une façon de traiter, y compris, cette espèce de lumière incertaine. Alors, cette lumière incertaine, quelque chose qui semble un peu voilé, il faut se rappeler aussi que le XVIIIe siècle sera le siècle des lumières, effectivement, et j'ai participé à un colloque il y a très longtemps sur le XVIIe siècle, sur le XVIIe siècle, le siècle de la lumière. On a vu avec Watteau, etc., bon, c'était aussi vrai du point de vue des sciences, la lumière, mais et Louis XIV, le roi s'associe aussi au soleil. C'est-à-dire que la question de la lumière est quelque chose d'important. Et on va passer, si vous voulez, d'une lumière unique à aux lumières de la pensée, d'une lumière de type divin à des lumières, au contraire, plus variées, plus complexes, plus accessibles, et qui seront les lumières, au contraire, démocratiques, on va dire. Et ici, vous avez la lumière solaire ne semble éclairer que les silhouettes des personnages. Et finalement, disparaître un petit peu de l'univers et ne plus dire grand-chose. Alors, on verra que ça peut poser des questions aussi sur cette idée de la lumière centrale, la lumière unique, comme si, alors c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais vous voyez qu'il y a quand même quelques arguments, comme si on voyait déjà un astre royal qui avait déjà des éléments de faiblesse. Louis XIV, un maximum de force, mais il y a déjà des éléments de faiblesse en coupant l'aristocratie du monde réel, en s'isolant du peuple, en s'appuyant sur finalement une aristocratie de plus en plus médiocre, d'où d'ailleurs le tiers d'État va monter en conséquence. Hein. Et vous avez donc sans doute quelque chose ici qui est déconstruction des valeurs, y compris d'un point de vue, on va dire, moral, éthique ou religieux, puisque ces jeux amoureux, enfin, pas amoureux, ces jeux à peine érotiques, ces jeux de pouvoir, sont en décalage avec, y compris, même la tradition chrétienne. La tradition chrétienne, alors qu'il est de roi divin. Et vous avez quelque chose aussi qui semble saper, y compris dans l'intimité, les fondations d'un monde qui a fonctionné, parfois de l'hypocrisie, mais sur des valeurs, celles du couple, la famille, etc., qui semblent tout d'un coup même se déliter au sein même de ceux qui ont le pouvoir, notamment ces jeunes aristocrates. Alors, voilà, je vais vous faire défiler plusieurs. Alors, certaines sont un peu plus probablement pour des décors. Et pour des décors internes au château, la Watteau a une facture un peu plus classique. Donc, comme on le voit ici, moins de flou, un sol plus équilibré, moins incertain, et puis des postures et des personnages qui sont moins en contraste avec le fond. Donc, on voit aussi que Watteau est capable, quand il fait des peintures, on va dire, plus personnelles, pour une clientèle plus privée, il est capable de s'exprimer plus, avec plus d'audace picturale, mais il est aussi capable parfaitement de construire des espaces totalement cohérents. Alors voilà les charmes de la vie, les fêtes vénitiennes, avec à chaque fois on voit le personnage vénitien. Alors dans les fêtes vénitiennes d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant. On dit qu'il s'est représenté ici en joueur de cornemuse. Vous avez le personnage, on le verra assez souvent, qui semble un peu son contrepoint ou son double. Là vous avez un personnage solitaire qui joue la cornemuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la cornemuse et le souffle, c'est l'instrument autour du corps plutôt populaire, alors que la guitare, tous les instruments à cordes, à l'origine, étaient plutôt apollinien et céleste, etc. Et vous avez cette femme ici, les femmes qui lui tournent le dos, le personnage est ici solitaire, personne ne le regarde, et il joue d'un instrument plus, entre guillemets, vulgaire, apparemment plus discordant, etc., dans lequel vous avez une présence d'un corps réel, alors que tout le reste est effectivement peut-être de l'ordre du jeu et dans lequel il y a un investissement plus moins franc, pourrait-on dire. Et alors, je vais continuer. Alors, le rassemblement au parc, toujours. Je passe un petit peu rapidement, vous allez voir, parce qu'ensuite je vais revenir sur ces peintures pour vous montrer quelque chose de récurrent qui ne paraît pas au premier coup d'œil. Alors là, ce sont des peintures, celle-ci est absolument remarquable puisque c'est le modèle absolu de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il a tiré au maximum le soleil déclinant, les frondaisons presque obscures, voire inquiétantes, hein, qu'est-ce qui se passe derrière ces grands arbres, le lac miroir, qui est aussi une sorte d'obstacle hein, au passage vers le lointain, des personnages ici dans une lumière brillante un peu paradoxale, puisque le soleil semble se coucher de l'autre côté et il brille de ce côté, alors par qui, par quoi sont-ils éclairés? Et puis ces petits personnages aussi, toujours en groupe, toujours dans des sortes de jeux avec des attitudes différentes. Vous avez ici ce couple, vous avez ici un autre couple, vous avez un couple ici, vous avez un couple ici allongé un peu comme témoin, et vous avez un personnage solitaire, etc. Alors, là, Watteau, dans ces œuvres-là, fait aussi, je suis désolé pour la qualité de la reproduction, mais on voit presque ses coups de pinceau, c'est presque des zigzags de peinture où il montre là qu'il est aussi... sens du drapé et de la lumière qui est absolument prodigieux. Dans des petites silhouettes, c'est quelque chose de très bon. Mais il y a quelque chose ici qui est notable et que l'on voit dans presque toutes ces peintures, y compris celle-ci, c'est que les personnages, en fait, sont petits. Ils sont petits, c'est-à-dire que lui est à une certaine distance. Vous n'avez pas de personnages grands, sauf dans la leçon de musique, paradoxalement, où là, c'était une des rares où vous avez des personnages plus grands. La plupart du temps, on a comme plus qu'une impression. Mais une sensation que Watteau ici rentre sur une scène et il la voit d'assez loin. Il n'y a aucune proximité avec les personnages. Il les voit avec une certaine distance, comme si justement il les voyait pas comme des individus proches, mais comme, moi parfois je dis presque des petits pantins, des silhouettes qui jouent des rôles, qui jouent à des jeux, qui sont souvent un peu cyniques, qui manquent d'assises, qui manquent de personnalité, qui sont dans une certaine oisiveté évidente. Et puis là, vous avez dans les deux pèlerinages à Cythère, celui de Berlin et celui du Louvre qui est peut-être plus beau. Alors, apparemment, il y aurait eu beaucoup de retouches sur des bateaux et des bateaux un peu abîmés, voire des faux bateaux. Celui-ci est incontestablement de la main de Watteau, et regardez comme un langage que Watteau invente à chaque fois, le sol qui est vraiment excessif, pas d'ondulé, incertain. On est même le pèlerinage pour Cythère, c'est-à-dire on va s'embarquer pour le pays de l'amour, et en même temps, alors là, vous avez carrément une foule, et le nombre, toutes les attitudes possibles, encore un couple ici, un couple là, avec des attitudes différentes, ce regard qui se demande, est-ce que c'est du regret, est-ce que c'est de la moquerie, est-ce que c'est sincère, etc. Et tous vont s'embarquer vers quelque chose qui est dans une confusion totale. Là aussi, on est dans des réalités délibérées. Alors, c'est l'occasion pour faire ces magnifiques paysages, c'est-à-dire qu'on pleure, jouer sur le flou, sur le rêve, sur quelque chose qui finalement est léger. Le paradoxe de Watteau, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement léger, puisqu'il y a le flou, il y a le dégradé, des paysages qui sont finalement presque gratuits, qui ne sont pas, c'est pas du tout une nature maîtrisée, contrôlée. Au XVIIe siècle, on est en plein dans la période des moulins à vent, des moulins à eau, des industries, des briqueteries, des tuileries, des canaux. On est vraiment dans quelque chose de construction de toutes les villes aussi sont de plus en plus importantes. On est dans une nature, sans parler de l'agriculture. Et là, vous avez quelque chose qui échappe un peu à cette idée de nécessité. Et puis, finalement, c'est vrai qu'on peut voir aussi ces jeux de l'amour comme un jeu qui fait apparemment de mal à personne. Si tout le monde est d'accord pour ça, il semblerait qu'il n'y ait pas de violence. Et donc, finalement, pourquoi pas se dégager aussi d'une certaine réalité ou morale chrétienne ou catholique, des contraintes de la famille, de la procréation, pour aller vers certaines joies, le plaisir de séduire ou d'être séduit, etc. Donc, il y a cette ambiguïté qui fait d'ailleurs le succès de Watteau, c'est qu'une bonne partie de ses clients voient le côté, on va dire, positif et léger, parce que pour eux, ils sont en plein dedans. Ils ne voient pas du tout qu'il y a une dimension éventuellement critique de la part de Watteau, ou ironique, ou distante. Parce que presque tous les artistes, on verra ça avec Goya, on avait vu avec Velázquez, presque les artistes ne viennent jamais de milieu aristocratique. Ils viennent toujours d'ailleurs. Mais les aristocrates n'ont aucune connaissance des milieux ou de réalités vécues par les artistes. Parce que pour eux, c'est un peu, c'est comme des larbins, hein, c'est vraiment ils ne les regardent pas, ils peignent, ils aiment bien, ils vont les défendre parce qu'ils les représentent. Ils n'ont aucun intérêt pour leur véritable vie, leur véritable point de vue. Et donc, vous avez quelque chose ici qui est très clair, et ce qui fait que les aristocrates n'imaginent même pas parfois le point de vue critique que les artistes peuvent avoir sur eux. Il faut. Rappelez-vous que même Velázquez avait dû dire devant la cour qu'il n'était pas peintre, il avait plus de 50 ans, il était peintre du roi depuis presque 30 ans, était ami du roi Philippe IV, mais pour être anobli, il fallait lui dire qu'il n'était pas peintre, puisque peintre, c'était malgré tout un décorateur de tableaux, de tapisseries, quelqu'un qui fait des portraits par-ci par-là, mais il n'y avait pas non plus l'idée encore hein, que l'artiste ait un point de vue. C'était vraiment aussi l'artiste, c'était quelqu'un qui maîtrisait une technique, mais qui n'était pas là pour exprimer une sensibilité. C'est en ce sens-là, dans la peinture française, Watteau est un des premiers à exprimer une sensibilité, on va dire, personnelle, une intimité. C'est quelque chose qui va se développer évidemment au XIXe siècle avec l'apparition, on va dire, de l'individu comme quelque chose d'absolument crucial, mais c'est assez clair. Alors, je continue, plouf. Alors, la fête champêtre, toujours celle-ci qui est à Chicago, qui est peut-être un peu moins Watteau du point de vue de la technique. Ça fait peut-être partie de ces peintures justement un peu retouchées ou dont l'attribution est peut-être douteuse. En tout cas, le sujet, la composition et une bonne partie des silhouettes sont typiques de Watteau. Ce qu'il est moins, le village au loin, et puis le satiné de la peinture qui est moins brillante que d'habitude, il y a moins de contraste, plus doux. Mais je viens. Là, vous avez encore une fête champêtre numéro 2, 1718. Donc, ça, tout ça, c'est la période de Watteau au moment où, effectivement, hein, c'est un peu à sa mort, hein, malgré tout, à 6 ou 7 ans avant sa mort. Donc, il est assez jeune, hein, il a une trentaine d'années, mais c'est le moment où il est quand même auprès de l'Académie royale. Donc, voilà encore une même scène avec à peu près toujours le même principe que je ne vais pas reprendre. Alors ici, pour les bergers, justement, on voit quelque chose de différent. Là, et c'est en ce sens-là où il y a une dimension sociologique chez Watteau. D'ailleurs, parfois, j'ai fait le cours avec Watteau, Chardin, Fragonard, pour parler des trois dimensions sociologiques. Watteau peignant l'aristocratie, Chardin, une partie du tiers-état de la production, et Fragonard, plutôt les intellectuels. Le tiers-état, les intellectuels. Et c'est intéressant, parce que tout ça, c'est le XVIIIe siècle. Ça commence avec Watteau, donc, XVIIe siècle, Louis XIV, et ça finit avec Fragonard, la Révolution française, etc. Si vous voulez, vous avez aussi, au XVIIIe siècle, on est dans quelque chose qui commence là, en 1718, 70 ans après, c'est la Révolution française. Et 70 ans maintenant, pour nous, ça ne fait pas beaucoup, on le sait. Donc, on a tous passé 50 ans, mais presque. On sait que 70 ans, c'est finalement, dans l'histoire, c'est peu de choses, 70 ans. Et donc, si vous voulez, en 70 ans, on passe d'un monde, des moments, à un autre, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et la peinture en est le témoin. Et alors, d'ailleurs, regardez, les bergers, ce n'est pas la même lumière. Ils n'ont pas la même posture. Ici, le sol est beaucoup plus stable. On a vraiment un paysage, on voit des moutons, on voit un village, on voit un horizon. C'est une nature qui est beaucoup moins menaçante, qui est plus éclairée, qui est, hein, il faut des landes pour les bergers, etc. Et les postures des personnages ici, vous n'avez pas la guitare, d'ailleurs, vous avez la cornemuse, sur laquelle Watteau s'était peint vraisemblablement avec une cornemuse. Donc, vous voyez qu'il y a une dimension sociologique chez Watteau. Et puis, les personnages semblent ici s'amuser vraiment ensemble, ils dansent ensemble, avec une complicité. Ce n'est pas le même rapport de séduction. Là, il y a quelque chose, un jeu vraiment partagé, et s'ils sont ensemble, et ils ont l'air beaucoup plus campés sur le sol. La façon de s'inscrire sur la terre, au sens strict, hein, on voit que ce soit le chien, que ce soit le personnage assis, les autres, etc. Ça n'empêche pas une certaine séduction, etc. Mais ce n'est pas la même ambiance du tout. Il y a un jeu avec la balançoire, on le voit, mais ce n'est pas du tout la même lumière, pas du tout la même brillance non plus. Un petit peu le personnage de droite, mais à peine. Puisqu'effectivement, ce sont des bergers. Alors, peut-être des bergers un petit peu fantasmés, mais on va voir que c'est pas ça. Alors, voilà encore Arlequin. Le dénicheur, avec toujours, on retrouve un petit peu les sujets habituels des bateaux, avec des qualités de peinture plutôt grandes. Et toujours ici, vous avez vu les coupes. Alors, je vais revenir là-dessus. Et vous avez celle-ci que je trouve très intéressante, qui est toute petite. Alors, elle est au Louvre, la Finette. C'est vraiment un petit tableau, mais grand comme ça, hein, presque format A5. Pas loin. Et alors là, on peut dire que c'est un concentré et l'amante inquiète. La question. Seules. Elles sont vraiment dans une suite totale, dans une très grande fragilité, et elles ont une certaine visage un peu presque de une mélancolie de vacuité, puisque le visage, elles ont à peine un visage, c'est vraiment des petits traits de petites poupées perdues dans une robe d'une brillance absolument magnifique, hein, quand on zoome. Il semble ici surprise, un corps ici dans l'ombre et une lumière brillante, une lumière ici presque inquiétante. Elle maîtrise un instrument très complexe, etc. Mais alors, effectivement, gonflée, encombrée de ces espèces de robes magnifiques, mais elle-même semble effectivement presque disparaître. Et l'amante inquiète, justement, peut-être un peu dont on s'est joué, elle est toute seule, elle attend, et puis peut-être c'est un faux rendez-vous, c'est un lapin, etc. Et vous avez là aussi, elle est déstabilisée. Regardez d'ailleurs le sol, la Finette est assise, on ne sait même pas sur quoi elle est assise. On voit à peine ses pieds, donc elle semble ne tenir que par sa robe. Et l'amante inquiète semble effectivement, le banc est à peine marqué, on voit à peine la pointe de ses pieds, elle semble basculer. Et là encore, un visage presque fermé, des yeux qui ne disent presque plus rien. Donc vous avez là encore un rapport au corps qui est assez typique. On va retrouver, alors, ici, dans les peintures, là je vais aborder une question intéressante, les cousins notamment et le faux pas. Celle-ci est peut-être emblématique justement d'un regard plus sensible et peut-être plus critique et acerbe de Watteau sur ces rapports-là. Puisque vous avez d'ailleurs quasiment le même personnage, ici et là. Et vous avez encore la même scène que tout à l'heure, finalement, avec ce personnage, le décolleté, ici, et le regard. Et là, vous avez peut-être quelque chose qui est explicite, c'est que le faux pas, le sol incertain, est l'occasion justement de chuter, de tomber. Et ce sol incertain sur lequel on ne maîtrise pas, justement, on devient la proie de ce personnage qui agrippe, elle le repousse, mais il l'agrippe quasiment violemment, puisque regardez les traits ici, les tissus sont tirés sur le dos de la jeune femme, et elle essaie de le repousser, son regard, les yeux fermés, etc., n'est pas très bienveillant. Hein, il est même un peu rougeau, et on va voir un petit peu, avec ses sourcils obliques comme ça, je vais essayer de vous montrer à quoi tout cela fait référence, et de façon très cohérente chez Watteau. Et là, vous avez peut-être beaucoup d'éléments qui, a posteriori, nous permettent de regarder aussi les œuvres précédentes de Watteau. Que ce soit le sol incertain, les rapports entre hommes et femmes, le flou, etc., la fragilité et une certaine inégalité dans les rapports. Alors, et vous avez deux types de personnages. Vous avez l'indifférent ici et le détail de la chanson d'avant. L'indifférent, c'est un peu l'équivalent. C'est un peu le jeune planant un petit peu. Le jeune qui, lui, est tout seul, très fragile aussi, brillant, un petit peu aussi mélancolique et fragile dans cette solitude, etc. Et puis, si on revient justement sur la chanson d'amour, on va retrouver ce personnage. Et maintenant, je vais zoomer un peu sur qui est le même que celui du faux pas. Qui est le même que celui du faux pas, avec les sourcils exactement posés de la même manière, le même rictus, le même type de nez, même de coiffure un peu désordonnée, le chapeau rouge, etc. Et puis, maintenant, regardez ses mains. Les mains comme celles du faux. Ça ne fait pas des mains de jeune homme. Ça ne fait pas des mains de jeune homme, ça ne fait pas des mains gracieuses, etc. Des mains, voilà. Musiciens, je pense qu'il faut des mains quand même très musclées, etc. Mais là, vous avez des mains noueuses, presque de personnes âgées, quelque chose qui semble un peu trompeur, justement. Des mains qui semblent presque griffues, qui semblent presque effectivement des fourches. Et vous avez, en fait, même quand on regarde ici sur le faux pas. Le faux pas, vous avez quasiment les mêmes veineuses, douleuses, des griffes, etc. Quelque chose qui n'est pas du tout ni dans la douceur, ni dans la caresse, ni dans l'élégance, ni dans l'élégance, etc. Et on voit que Watteau est parfaitement capable. C'est un grand atomiste. Parce que là, il n'y a pas du tout de hasard. Alors maintenant, là où c'est assez incroyable, c'est qu'effectivement, Watteau va refaire une peinture d'après un Titien, c'est Jupiter, Zeus ça prétend abuser de cette Amazone endormie. Alors, il y a plusieurs versions, soit ça peut être un satyre et Vénus, mais ça peut être aussi Zeus se déguisant en satyre pour abuser d'une Amazone endormie, c'est Antiope, je crois. Et là, vous avez quelque chose qui est assez intéressant, c'est l'association entre Zeus, le dieu des dieux, associé à la lumière et au satyre et à l'abus de pouvoir, qui va abuser ici du sommeil d'une femme, effectivement. Et regardez qu'elle est innocente, regardez les couleurs, ocre et un peu rouge, et beaucoup plus blanc que vous de la femme. Et regardez le visage du satyre, parfaitement très très proche de celui de la leçon de musique, ou de celui du faux pas, ou de celui de ce personnage qui semble effectivement abusé finalement. Il a le même type de main, le même type de rictus, les mêmes sourcils, le visage rougeau, les yeux presque fermés, etc. Donc, de façon assez claire, on peut établir une adéquation et penser que, et voilà des dessins hein, de Watteau, ici le regard est plus humain, on va dire, il avait sans doute une sorte de modèle, et ensuite il l'a, on va dire, un peu, pas caricaturé, mais exacerbé. Et d'ailleurs, ici, dans les Champs-Élysées ici, vous avez Antiope, la même scène qui est ici, représente exactement la même posture que la personne. Donc, si vous voulez, vous avez des clés qui sont finalement données chez Watteau, hein, puisque vous voyez ici, toujours ce même personnage, la posture de ici est la même exactement de celle qui est ici. La sculpture est ici peinte. Et regardez maintenant ici, j'ai zoomé et j'ai cadré sur presque toutes les peintures que vous avez montrées, le personnage et des scènes qui, en fait, reviennent tout le temps de façon presque obsessionnelle. Que ça soit ici sur les cousins, ce personnage, que ça soit dans le parc, que ça soit dans la fête champêtre, que ça soit ici dans la fête champêtre numéro 2. Et vous avez presque toujours l'idée du même personnage qui abuse de la situation. Alors, même dans les bergers, dans l'Arlequin, le même personnage, la fête vénitienne, même jeu sur la main, dans la surprise, la halte de chasse, je peux vous montrer, l'amour pacifique, entre guillemets, et vous avez ici le dénicheur, le faux pas, le festival de l'amour, le plaisir partagé, l'embarquement pour citerne numéro 1 ou l'embarquement pour citerne numéro 2. Et vous avez donc à chaque fois quasiment ce même personnage qui est, on pourrait dire, le contrepoint de Watteau. Le contrepoint de Watteau qui, lui, on l'a vu au début, est beaucoup plus dans des relations amicales, par exemple avec Alba Carrera, quelqu'un de discret, quelqu'un qui voit les choses avec un certain recul, y compris sensible, qui ne se sent pas conquérant, qui voit les choses de loin. Et sans doute, il voit, il met en scène de façon discrète ce personnage comme une sorte de contrepoint de ce qu'il est et quelque chose qui serait la clé de rapport d'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir est associé, c'est là où il y a une dimension critique, sociologique chez Watteau, là. C'est une interprétation de ma part, attention, hein, si vous rédigez un article, ne citez pas. Puisqu'on a vu que quand même, le satyre, ici, était une figure de l'abus de pouvoir de Zeus. Or, on est en plein Louis XIV, roi soleil, qui est presque l'équivalent du dieu, qui fait le roi danse, la soleil danse, etc., et qui, lui aussi, donc, cautionne d'une certaine manière l'idée d'un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir, alors, le cas de Louis XIV est un peu particulier, etc., mais toujours est-il que vous avez cette idée de quelque chose qui est déséquilibré au sens strict. Et là où c'est aussi, on va dire, je trouve très emblématique, voilà, c'est cette peinture de Watteau, qui est très connue, qui est au Louvre, qui est magnifique. D'ailleurs, si vous allez au Louvre, dans l'aile Richelieu, il n'y a jamais personne. Donc, on peut voir les Watteau, les Fragonard, les Chardin, les Delatour, tranquillement. Il n'y a personne, tout le monde, Sully, Denon, etc. Sauf si un jour on fait une exposition au Watteau, alors là, tout le monde va se précipiter, mais vous pouvez aller voir les coraux, les Watteau. Il n'y a personne. Cette peinture, il n'y a personne. Et alors, c'est le Gilles. C'est le Gilles, et là, effectivement, le Gilles, c'est vraiment le personnage, le contrepoint du cynique. C'est le naïf, c'est celui qui a gardé une certaine âme d'enfant. C'est celui-ci qui se dévoile totalement, qui est candide au sens strict. Blanc, hein, candidat, etc. La pureté blanche. Des habits trop petits pour lui, comme s'il avait grandi trop vite. Qui est les bras ballants devant nous, qui est très grand cette fois-ci. Alors, et là, vous avez la différence aussi, on voit bien que Watteau joue aussi sur la taille dans sa peinture. Les personnages petits, plus de loin, il a de la distance. Là, au contraire, vous avez une proximité remarquable et il nous tourne par le dos. Il est sur un sol très clairement établi. Il a les pieds bien au sol, même s'il est naïf, même s'il est enfant. Et il est lunaire, il n'est pas solaire. Ça aussi, c'est important. La brillance, c'est côté solaire, mais en fait superficiel. C'est ce qui brille, c'est un peu du toc, finalement. C'est une apparence. Et lui, il est lunaire du côté d'une sorte de contrepoint. Et la lumière, d'ailleurs, est beaucoup plus satinée. Ce n'est pas la même brillance. Chose de beaucoup plus doux. Il n'y a pas du tout les zébrures extraordinaires donc il maîtrise parfaitement. Et ce qui est assez évident, c'est que derrière, ben vous avez ce qui trompe. Là, vous avez encore un satyre. Et puis, vous avez une sorte de scapin, cette fois-ci, qui est très proche du mezzettine qu'on a vu et du personnage. Les petites boucles noires, les mêmes sourcils, rouges aussi, avec cette idée d'une sorte de violence. Vous avez ici un personnage avec une crête de coq qui semble se monter. Vous avez ici le personnage avec un âne qui s'apprête à lui faire une farce dans son dos, donc à le tromper. Et vous avez, au contraire, cette espèce de visage un peu endormi, mais naïf, du Pierrot lunaire ou du Gilles, etc. Et je pense, sur interprétation peut-être, mais que c'est un autoportrait psychologique de Watteau. Et qu'en fait, on comprend très bien Watteau en regardant ça, on se dit, mais si on regarde les autres peintures et celle-ci, il y a sans doute quelque chose qui se passe. Et on serait assez proche, finalement, d'un autoportrait, alors pas un autoportrait très portrait, mais un autoportrait psychologique de son rapport au monde. Et 1719. Alors voilà, hein, donc encore des détails pour vous montrer la différence. Hein. On voit bien que dans le Gilles, regardez ce que je vous disais, c'est le rapport entre ce personnage et celui-ci. Or, ce sont des personnages de comédie. Avec un peu cruel, on est dans un jeu. Et on voit bien qu'effectivement, le jeu, quand c'est du jeu, mais dans la vie réelle, ça peut devenir dangereux. Et c'est justement ça que semble introduire Watteau dans ses peintures. Quelque chose de plus subtil que ces simples fêtes champêtres, etc. Et à la différence, et c'est là où Watteau, quand on regarde de près, c'est une très grande cohérence, quand il va peindre les comédiens, ils sont de nuit. Et c'est des vrais comédiens, regardez le sol, parfaitement stable. Regardez la lumière. Eux, ils ont de vrais costumes pour véritablement jouer à la comédie. Ils sont tous complices du jeu. Donc, ils savent très bien que ces costumes, soit c'est une règle, effectivement, il y a un consentement partagé, effectivement, pour établir les relations et justement pour exprimer la complexité du monde par la comédie, que ce soit la comédie à la française ou la comédie à l'italienne. Et vous avez le Gilles, il a son rôle. Et ah, quand ils sont entre eux, vous avez l'avare ici, vous avez justement le Scapin ou le Mezzettine qui est là, etc. Et tout le monde. Et là, on est à la lumière des bougies, de la nuit, des torches, de la lune, etc. On est dans un contrepoint des lumières solaires qui finalement sont totalement relativisées. Alors, il n'a pas fait une comme ça, hein, il y en a plusieurs, et à chaque fois, regardez la comédie d'Italien, ou ici le Gilles, regardez comment il représentait le sol. Regardez comment la lumière sur les personnages, la brillance même sur les habits, les postures, on n'est plus du tout dans le même registre. Ce qui, or, ces peintures, on les connaît moins de 20 ans. Là, une sorte d'héritage qui fait qu'on va retenir, et souvent, quand vous lisez les textes sur Watteau, on dit « Ah, c'est le peintre de la légèreté, de la cour, des amours, etc., d'une certaine rêverie, etc. » Mais on s'est rarement confronté à ses autres œuvres. Et voilà la partie à regarder. Encore, vous avez la ville avec la guitare. Les postures des personnages ne sont pas du tout les mêmes. Cette fois-ci, pendant la nuit, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau de la lumière. On sait. Un clair de lune finalement éclaire remarquablement, presque mieux que le soleil couchant. Et ici, vous avez encore Pierrot heureux. Pierrot heureux, regardez la posture, c'est celle qui joue de la musique. Le mezzettine, là, n'a pas du tout la même posture que dans la leçon de musique. Et Pierrot est heureux, cette fois-ci, il a presque peut-être trouvé un amour égal. Hein, ils sont sur le même banc, hein, et ils ne sont pas seuls. Il y a quelque chose ici qui est très très clair. Donc, autant d'éléments, si on veut aborder Watteau comme une sorte d'équation, qui sont très éclairants. L'autre éclairage, c'est le rapport à l'enfance aussi. L'âge heureux et la danse. Et ça, c'est vers la fin de sa vie, 720, 719, etc. Toujours peintre de cour, c'est presque que des peintures, etc., tardives. Dans le monde des enfants, là aussi, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas l'espèce de. Ce qui semble être une sorte de poison pour Watteau, c'est cette espèce de sexualité abusive ou inégale ou qui va perturber les rapports entre les personnages. Et ici, au contraire, ben, les enfants, ils jouent. Alors, ils sont déguisés un peu comme des grands, mais paradoxalement, regardez, ces enfants dans la toile sont beaucoup plus grands que les adultes dans ces peintures. Dans ces peintures de fête, etc., les adultes sont petits dans un espace qui est grand, et là, les enfants qui sont des êtres petits, ici, sont très grands dans la toile. Ils occupent presque plus de la place. Parce qu'ils se sentent proches d'eux aussi, comme du Gilles. Et on retrouve ce terme, ce modèle un peu de l'enfance, une certaine innocence, que ce soit pour le Gilles Candide ou ici les enfants, quelque chose qui est très clair. Et d'ailleurs, ici, on a une sorte de double Pierrot. Et là, on retrouve un peu les bergers, on retrouve le sol beaucoup plus stable, et toujours cette idée du jeu, mais un jeu qui est harmonieux, celui-ci, que ce soit celui des comédiens ou celui des enfants. On a quelque chose qui est très intéressant et qui est très clair, y compris qui va se traduire jusque dans les postures. Alors, je voulais faire retours sur les dessins de Watteau, parce qu'il y en a des centaines, et il y a quelque chose qui est aussi très éclairant dans ces dessins. C'est, alors, on a vu sa capacité d'observation absolument sublime. Dans les postures, les drapés, les plis, etc. L'anatomie. Oh, l'on voit ici. Hein. Mais vous avez quelqu'un, regardez, qui est absolument sensible au visage, au portrait. C'est quelqu'un qui a un très grand portrait. Les émotions, les traits, les singularités de chaque visage, il est capable de les peindre. Mais dans sa peinture, on trouve très peu. Donc, c'est quelqu'un qui, très clairement, met de côté l'individualisation des silhouettes qu'il a dans ses grandes scènes, au bénéfice de l'idée que ce sont surtout des pantins, hein, enfin, des pantins aristocrates, etc. Les acteurs, ils ont des visages grimés, soit des masques, ce sont des pantins, mais ils le savent très bien. Les autres semblent être des pantins, presque malgré eux, avoir perdu leur personnalité, perdu presque leur corps, alors qu'on voit que, perdu dans les drapés, regardez que ce soit le visage, que ce soit même Mezzettine ici, ou le personnage qui lui a servi de modèle, est beaucoup moins violent ici, beaucoup moins dur que dans la peinture. La peinture, il est chargé de couleurs. On voit jamais ses yeux ouverts quasiment. y a toujours cette espèce de rictus qui est beaucoup moins prononcé. Et là aussi, dans ces dessins sur du mi-teinte, ce qu'on appelle le mi-teinte, vous savez, c'est un papier qui est légèrement coloré, de mi-teinte, dans lequel on peut souvent travailler avec du blanc ou du noir, ou des couleurs, qui permet d'avoir un effet de lumière remarquable. Et là, on a son génie du modelé, du dégradé, c'est assez saisissant, et il est capable aussi d'abandonner cette technique, ce savoir, au bénéfice d'une expressivité assez incroyable. Alors, les dessins de Watteau sont prodigieux, et l'attention, alors là, regardez les volumes, les perspectives, les personnages, tous ces personnages ont des expressions, y compris, ça c'est important, intimes, une sorte de pensée intérieure. Ce n'est pas juste des visages comme ça qui posent. Ils sont pris sur le vif, donc avec leur autonomie, leur individualité, hein, quelle qu'il soit. Et y compris, vous avez ces portraits de jeunes noirs, là, qui sont relativement rares à l'époque. Pour Watteau, il y a une proximité avec ces modèles, évidente, avec certains de ces modèles. Alors, je vais maintenant, justement, développer un petit peu, d'une manière plus ouverte, sur cette problématique, justement, de l'image de soi dans un monde. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais de Gianni Piazzetta et de Giulia Lama. Je pensais qu'on l'avait vu, en fait. Non, c'est les contemporaines Giulia Lama de Rosalba Carrera, Watteau, etc. Et ici, vous avez justement, c'est cette artiste vénitienne. Mais si vous allez à Venise, aucune de ces peintures n'est signalée. Il y en a une que j'ai réussi à voir presque de côté dans une église, elle n'était pas éclairée. Une peinture absolument magnifique. C'est une femme qui a fait des peintures religieuses, qui peut, parce qu'elle n'avait pas tellement de commandes, mais elle a quand même eu des commandes. Elle était protégée par Giovanni Piazzetta, qui lui est très connu, mais qui était vraiment un ami très proche. Et elle aussi, on l'accusait, ou elle se trimballait. Effectivement, cette espèce de casserole qui disait que comme elle n'était pas belle, ses peintures ne pouvaient pas être. Déjà. Et donc, la même chose que pour Rosalba Carrera. Donc, quelque chose qui est absolument infâme. Et donc, une grande solitude aussi. Une grande solitude de certains artistes qui se trouvent effectivement relégués, surtout à Venise, où là, on est en plein la Venise de Casanova, de la séduction, du plaisir, etc. Et là, vous avez effectivement une sorte d'infamie sur certains artistes de génie. Hein, qui est là, c'est un portrait de Piazzetta, mais il la représente en peintre, et il la représente, y compris, c'est là où c'est intéressant, que Piazzetta et Giulia Lama sont très complices au niveau de non seulement des coloris, de la manière de peindre. Hein, ce qui fait que même, il faudra aller voir si certaines œuvres attribuées à Piazzetta ne sont pas de Giulia Lama, etc. Mais ce n'est pas du fait de Piazzetta, Piazzetta au contraire l'a défendu. Mais vous avez là, ce qui est assez notable, c'est l'émergence de personnages qui commencent à s'exprimer comme individus, ce qui était jusqu'à présent, on ne parlait pas tellement de la sensibilité, de l'intimité de ces personnages. Le début du XVIIIe siècle, ça va être ça aussi. Ça va être l'aboutissement de Cogito ergo sum, c'est l'individu, c'est qu'un coup on part de soi, c'est quand même Descartes aussi, le 7e siècle, et finalement c'est quelque chose qu'on va aller vers cette idée que, plutôt que des sujets comme ça, d'un roi, etc., chacun est porteur d'une vérité, d'une sensibilité, d'un point de vue. Ça va arriver au 19e siècle, effectivement, avec le subjectivisme, l'impressionnisme, le réalisme, etc., mais c'est quelque chose qui est important, c'est que l'artiste va aborder quelque chose qui lui est absolument singulier, alors, jusqu'à justement cet effet de marginalité que l'on voit ici. Alors, Giulia Lama, d'ailleurs, c'est une des. Elle est contemporaine, hein, justement, de Watteau et de Rosalba Carrera. C'est une des. On a trouvé certaines études de nu. C'est une des femmes qui a quand même réussi à faire des études de nu, alors pas dans les ateliers officiels, mais des nus masculins. Et vous avez donc quelques très rares peintures d'elle, comme celle-ci, mais qui sont remarquables de technique et comme point de vue. Très souvent, ces coloris sont dans les ombres, et comme par hasard, on va retrouver ici soit des femmes seules, soit des femmes martyrs, etc., et on retrouve une problématique assez proche de celle d'Artemisia Gentileschi, ou de... Son nom, bref, ça ne reviendra. Et donc là voilà, en peintre, hein, classique, mais on voit aussi dans une lumière sombre, un sentiment de solitude, on est toujours aussi dans une sorte de continuité de Artemisia Gentileschi. Et là, vous avez carrément une femme décapitée, c'est hallucinant, hein, une violence terrible, mais quand on rapproche cela avec le vécu et l'histoire de Julia Lama, on peut comprendre aussi qu'il y a un investissement personnel dans le sujet et dans la manière de peindre, etc. Donc toujours, ça, ces artistes un peu méconnus, voilà encore Julia Lama, donc voilà quelques œuvres qu'on commence à reconnaître d'elle, où elle montre une maîtrise parfaite et elle se caractérise aussi par une peinture souvent avec des lumières qui sont déclinantes. Ça, c'est aussi un des points communs avec Watteau, c'est la lumière qui décline. Certaines ambiguïtés, certaines solitudes, quelque chose qui est aussi dans une mélancolie réelle. Et là, on le voit. Alors, ce qui caractérise aussi la main, c'est cette espèce de presque des aplats. Elle s'écarte d'un modelé très graduel pour aller parfois vers des audaces de contraste, des plans comme ça, des rapports de lumière qui sont aussi. On n'est pas loin de certains maniéristes hein, italiens comme Rosso Fiorentino, c'est remarquable. Alors c'est Judith devant l'Holofernes. Hein. Le sujet, c'est donc elle s'apprête à le décapiter. Et c'est quand même toujours aussi les sujets que l'on a vus qui avaient été utilisés par pas mal d'artistes femmes pour essayer de revendiquer une sorte de pouvoir, y compris sur les abus. Parce que Holoferne, l'idée d'Holoferne, c'est aussi l'histoire d'un abus contre Judith. Judith est livrée à Holoferne, un petit peu pour, c'est elle qui se propose, etc., et ensuite pour pouvoir le tuer. Donc pour sauver en gros sa patrie, etc. Alors je voulais vous montrer aussi certains artistes qui ont fait des sujets proches de ce bateau, très très proches, quasiment les mêmes, mais on ne retrouve pas la même tension. La même vibration, la même invention, y compris picturale, au niveau du geste. Parce que vous avez presque à chaque fois les mêmes scènes. Ici, de Joseph Papert, hein, qui est un peu plus jeune que Watteau, c'est probablement inspiré par Watteau, regardez presque même littéralement. Puisque... Mais regardez la différence, c'est net. La différence de texture, de brillance, de flou, la manière de traiter le paysage, et y compris. Vous n'avez pas la même tension entre les personnages. Il y a quelque chose qui est très aseptisé, adouci. Alors là, on est vraiment effectivement dans un peintre de cour qui n'exprime pas du tout la même que effectivement Watteau. Et qui va clairement vers une sorte d'érotisme léger ou qui ne se cache plus du tout et dans lequel il est complice, lui. Alors que Watteau, jamais, va faire ce genre de choses. Y compris avec le personnage avec la robe relevée, etc. Donc c'est quelque chose, là, vous avez de complicité entre le peintre et son public, avec l'idée que le peintre fait partie, a le même point de vue que le public, etc., ou que ce qu'il représente. Là, vous avez une... Alors que c'est jamais le cas chez Watteau. C'est jamais le cas chez Watteau, sauf quand il fait des portraits, mais il va s'attarder surtout au visage. Et là, vous avez quelque chose hein, qui est assez clair. On trouve ici quasiment le même personnage, mais il n'y a pas la même violence. Il n'a pas la même agressivité, il n'a pas les mains noueuses et griffues, il n'a pas non plus la même violence du satyre, même s'il a un petit peu les signes, mais parmi les yeux ouverts, il a les yeux plus rouges, il est beaucoup plus jeune, etc. Et elle le repousse à peine. Donc là, on est quelque chose comme si cet artiste n'avait vu de Watteau que les sujets, en globalement les scènes, mais pas du tout finalement la profondeur. Et là, d'ailleurs, on retrouve des sols beaucoup plus stable, etc. Alors, Jean-Baptiste Joseph Pater, vous avez Nicolas Lancret qui est connu, vous avez aussi ces histoires de relations amoureuses, de séduction chez les bergers, chez les jeunes aristocrates, etc. Donc, c'est quelque chose qui est partagé. Watteau n'est évidemment pas le seul. Mais on peut dire que lui, il aborde un regard qui est vraiment spécifique. Alors que c'est pas mal, l'aspect, c'est comparable. Et puis, vous avez même ici des scènes, alors là, comme si ça devenait des sujets. Alors, c'est pas inintéressant de voir que ça devient un sujet. Le mari trompé, le personnage qui abuse de la chute encore d'une jeune femme, etc. Et Alors là, il est relativement proche, mais il a un petit air un peu innocent. Et elle sourit. Vous voyez, on n'est pas dans le faux pas de Watteau, on ne voit pas le visage de la jeune femme, mais elle repousse très clairement. Et puis son dos est agrippé par les mains du personnage, la joueuse. Et puis vous avez ici le mari, sa femme, etc. Donc quelque chose là avec l'esprit critique. Donc Nicolas Lancret, c'est aussi quelqu'un qui accompagne cela. Alors la sexualité explicite, on va la retrouver par exemple chez Boucher. François Boucher, vous avez une clientèle aussi. Donc vous avez, et en fait, une bonne partie des peintures où l'on voit des corps voilés ou avec des robes, etc., sont explicites pour les gens. Assez clairement, derrière, il y a en jeu la sexualité explicite, érotique, etc. Et là, regardez encore qui s'attire quasiment une sorte de Mars-Vénus. Vous avez ici une complicité, quelque chose qui est très clairement un plaisir. Là, vous avez Leda et le cygne, une peinture explicite. Là encore, Jupiter qui se transforme en cygne pour aller abuser de Leda, mais qui a l'air extrêmement complice. Donc là, on est dans un érotisme explicite, et même, on parle de l'origine du monde de Courbet, mais en fait, dans les commandes privées, dans les collections privées, vous avez beaucoup de peintures très, très clairement érotiques. On le voit aussi toujours de Nicolas Boucher avec Les Bergers, et cette fois-ci, bon, juste un bout de tissu, mais. Etc. Là, donc, vous avez quelque chose qui est très, très clair. Donc, ce n'est pas du tout un abus de langage quand on voit les peintures de Watteau ou d'autres de dire que derrière, il y a une dimension érotique ou de séduction. Et cette séduction, elle peut être, on va dire, intellectuelle ou platonique. Hein, on voit que chez Watteau, quand il fait des portraits, il s'attache au personnage. Mais ça peut être aussi, on va dire, purement libidineux. Et c'est un peu le cas, effectivement, ici de François Boucher. Où on exprime une libido et un désir érotique direct et partagé. Et puis, vous avez quelque chose qui est un peu plus dérangeant par rapport à l'enfance, puisqu'on a vu comment Watteau pouvait voir l'enfance avec ces jeunes innocents qui jouent, etc. Et là, vous avez cette peinture de François Boucher et de l'autre à côté de Greuze, qui sont des suivants, hein, mais qui sont en plein dans le siècle de Louis XV, vraiment en plein XVIIIe siècle. Vous avez vu leur date, vraiment. Et qui sont des grandes références. Boucher, c'est le grand décorateur de XV de Versailles, c'est le peintre des grandes scènes mythologiques, etc., des grands décors. Et Greuze, c'est le peintre de toutes les peintures qu'on a eues, même dans les Lagardères et Michard, Le Retour du Fils prodigue, etc. Et ici, vous avez de très jeunes filles, jeunes fils, avec ici un petit oiseau qui sort de la cage, un chardonneret, et ici un oiseau mort. Mais, de façon claire, tout le monde savait très bien que l'oiseau, c'est l'allégorie de la virginité. Il est sorti de la cage ou il est mort. C'est-à-dire qu'elle a perdu sa virginité. Et ce sont des peintures qui ne trompaient personne. C'est des peintures qui étaient exposées comme ça à l'Académie. C'est clairement des peintures pédophiles, explicites, et comprises comme telles. Comprises comme telles, au point que même j'avais été un peu estomaqué, parce que j'apprécie beaucoup Denis Diderot. Et dans les salons de Diderot, il parle de la cruche cassée que je vais vous montrer tout à l'heure, et il dit, oh, comme on aimerait être la cause de cette cruche cassée. En gros, il dit, bah, si c'était moi qui avais défloré cette jeune fille. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est partagé. Qui est partagé, qui est plus ou moins explicite, et là, en tout cas, qui est très clair. Et qui est là, un point de vue différent. Et voilà, encore, hein, Greuze, jeune fille pleurant un oiseau mort. Donc, oui, et alors, quand on dit jeune fille, oui. Et là, la cruche cassée, attendez, la cruche, effectivement, et elle a les mains, effectivement, sur le pubis, elle est le sein, etc. Alors, la subtilité de Greuze, c'est qu'elle n'a pas l'air joyeuse. Elle a l'air, au contraire, effectivement, extrêmement troublée. Mais plus victimes, etc. Mais à côté, vous avez effectivement la bête fauve, etc., la cruche cassée, etc. Il est obligé de récupérer ici tout ce qui était dans la cruche, etc. Mais visiblement, elle était abusée. Donc c'est quelque chose qui est très clair à cette période-là. Et donc on peut aussi, a posteriori, le reporter et utiliser ce regard pour comprendre les œuvres de Watteau et leur ambiguïté, y compris le regard critique de Watteau. Watteau, lui, voit les choses visiblement différemment. Ils voient l'enfance différemment, comme un monde justement un peu les jours heureux, hein, à part, prodigieux, etc., d'innocence et puis d'égalité. Et lui-même se voit comme un enfant, finalement, quelqu'un qui a encore gardé une sorte de pureté et d'innocence de l'enfance. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aussi de cette époque qui n'est pas toujours reluisante. Pour parler de Greuze et Chardin, donc on verra quand même la prochaine fois, donc je développerai un peu plus Chardin, mais regardez deux manières de regarder, y compris parce que vous avez en dimension sociologique. Parce que, évidemment, quand il y a abus de pouvoir et pouvoir, c'est pouvoir sur, entre guillemets, des êtres, entre guillemets, inférieurs. On est en plein dedans avec les abus, hein, que l'on voit dans le cadre de l'institution. C'est presque toujours des gens qui vont être abusés parce qu'on s'en pense par toujours un abus de pouvoir, un pouvoir de dominant qui va nous permettre de penser qu'on peut abuser de celui qui est inférieur, entre guillemets. Ça peut être inférieur en âge, mais ça peut être inférieur aussi socialement. On connaît très bien cette histoire, et bien, de toutes les gens de maison, les femmes ou même parfois les hommes qui étaient abusés parce que c'était une sorte de prédation sexuelle, droit de cuissage, etc. Ça, c'était très clair, c'est une chose. Et là, vous avez le regard de Greuze et le regard de Chardin. Et là, vous avez quelque chose qui est différent. Le regard de Greuze, c'est que l'italienne paresseuse, donc elle est vraiment absolument pas respectable. Elle n'est pas respectable, mais en gros, elle a un côté presque désirable du point de vue du corps, puisqu'elle a la moitié dépotraillée, elle se laisse aller, donc c'est quelqu'un quasiment qui est une sorte de, presque un objet de consommation, puisqu'elle est méprisable, y compris parce que son travail ne le fait pas. Et donc vous avez ici quelque chose qui est donc socialement, et même son travail ne le fait pas bien. Donc en plus, elle est effectivement presque l'objet de consommation, et italienne en plus. Il y a aussi c'est plus la grande Renaissance italienne, c'est italienne donc. Il y a un mépris évidemment, il y a une sorte de xénophobie assez évidente. Et puis se laisser aller fait que, puisqu'elle se laisse aller, ben, elle peut se laisser aller, elle n'a pas de mal, elle n'a pas de tenue, etc. Donc c'est clair. Alors, la différence, là, Chardin va rencontrer quelque chose de totalement différent. Une femme dans une arrière-cuisine qui est en train de peler. Alors, c'est des pommes de terre. Je ne sais pas exactement à quelle période on a introduit les pommes de terre dans la cuisine française, mais c'est à peu près à ce moment-là, donc je crois. Hein, donc, ou des, enfin, bref, des racines, visiblement, un potiron. Et elle est au contraire dans la tenue, y compris une sorte de dignité avec un petit foulard, avec bien tenu, un foulard relativement élégant, la taille un peu discrète, les rebords des manches assez élégants. On ne voit pas ses habits ici, mais tablier pour la protéger, etc. Elle travaille. Et en plus, c'est là aussi remarquable, elle est pensive. Elle est pensive, elle n'est pas hébétée, elle est pensive. C'est-à-dire que bien que travaillant, bien que dans l'ombre, bien que inconnue de tous et de toutes, elle est là, elle a son monde, elle a son univers, qui est un univers stable, équilibré, positif. Et là, vous avez un regard très différent de Chardin sur les mêmes types de personnages et de catégories sociales. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je développerai la semaine prochaine ou tout à l'heure avec Chardin. Bon, je ne vais pas faire Chardin maintenant, puisque j'ai prévu de le faire la semaine prochaine. Voilà. Alors, Diderot, là, vous avez quelque chose qui est assez intéressant. Diderot, lui, va être parmi, donc on est un petit peu plus tard quand même, mais Diderot, j'aborderai de nouveau ici, parce que je vous ai dit que Watteau, Chardin et Diderot, c'était un point de vue. Pour faire vite, mais je développerai la semaine prochaine, Chardin, c'est quand même un point de vue aussi sur l'enfance, vous avez vu, qui est différent. Là, vous avez des enfants qui apprennent, des enfants qui travaillent, etc., qui sont représentés avec des visages et avec une certaine sérénité. Ce n'est pas du tout des enfants victimes, ce n'est pas du tout des enfants non plus qui seraient des objets ou qu'on pourrait soumettre, etc. Et vous avez Diderot, qui lui est un personnage qui sera en plein dans le XVIIIe siècle, un personnage pour la liberté de penser, la liberté d'agir, etc., qui va se détacher de presque tous les codes. Et c'est en ce sens-là, on voit aussi que le XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui se fracture, puisque d'abord, vous avez des regards individuels sur le monde, qui s'individualisent de plus en plus, vous avez une sensibilité qui s'exprime, vous avez un monde qui craque, le monde de l'Ancien Régime de Watteau, c'est un monde finalement finissant, le soleil décline. Ils sont coupés de la réalité et finalement, ils sont porteurs de quasiment plus aucune valeur. Il y a quelque chose qui se défait totalement dans l'univers de Watteau, y compris le sol qui disparaît, etc. Chardin nous montre au contraire quelque chose de constitué, de stable et de solide, et Watteau nous montre aussi que l'intelligence, l'esprit dans le tiers-état, c'est quelque chose qui, tout à coup, permet de se sortir et permet d'échapper et d'envisager le monde nouveau par l'éducation, par l'encyclopédie, par le savoir, par la liberté individuelle, qu'il va payer cher, il sera emprisonné parfois pour ses écrits, qu'il va se détacher aussi du religieux, mais cette fois-ci, non pas uniquement par le libertinage, il aura une dimension libertine, Diderot, mais aussi intellectuellement en étant un des premiers écrivains athées, clairement athées et matérialistes, donc en se détachant totalement de l'idée de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez regardé deux représentations de Diderot, une par Van Loo et une par Fragonard. Celle de Van Loo, c'est une représentation, à dire, très classique. Hein, Stahl, on est presque dans le portrait de Louis XIV. C'est la même maîtrise, la même technique. Alors que Fragonard va, lui, tout d'un coup, être un artiste qui va, on va dire, épouser l'esprit de Diderot dans le portrait. C'est qu'il est beaucoup rouge ici, il a les cheveux presque décoiffés, le costume plus ouvert, plus libre, le livre qu'il tient à la main a presque une sensualité, ici que les feuilles sont plus à plat, c'est quelque chose de plus distancé avec la plume, etc. Là, il y a une sensualité, une vie, y compris une flamme au sens strict avec les couleurs jaune, rouge, noir, etc. Une fougue au sens strict, le feu, hein, et une posture qui est dans une sorte de torsion. C'est quelqu'un qui cherche ailleurs, qui essaie de se sortir de ce cadre. Alors, il n'est pas dans la grande lumière, puisque c'est aussi, comme les personnages de Chardin, des personnages du tiers-état qui sont en dehors de la lumière, puisque la lumière, en gros, la scène, c'est celle de l'aristocratie, c'est celle des rois, des aristocrates, qui, eux, ils sont en dehors de la scène, le tiers-état populaire ou le tiers-état intellectuel. Donc, on ne les voit pas dehors, on ne voit pas de fenêtres, on ne voit pas de décor, mais les personnages de Chardin sont stables et les personnages de Diderot, par leur intelligence, cherchent à se sortir de là. Et Diderot, les personnages de Fragonard. Et on le voit, les femmes aussi. Avec Fragonard ou avec Diderot, Diderot, par exemple, était libertin, mais c'est un des personnages qui a eu des correspondances les plus philosophiques, les plus abouties, les plus complexes, avec des amies femmes, que ce soit la princesse de Russie ou que ce soit Sophie, je ne sais plus son nom, qui était sa correspondante, philosophe, où il y a des échanges de lettres extraordinaires avec une égalité intellectuelle assez évidente, et y compris une sensualité. Et là, vous avez Fragonard qui peint Anne-Louise Brion de Jouy et Marie-Madeleine Guimard. Anne-Louise Brion de Jouy, c'était sa compagne, qui était dessinatrice, créatrice de camées, etc., donc une artiste. Et il la représente ici, sensible, sensuelle, etc., mais avec des livres. Donc on s'éloigne, vous voyez, des petites poupées de Watteau, enfin, des poupées aristocratiques de Watteau, etc., ou la chair un petit peu lubrique de Greuze, etc. On est dans une femme qui, en même temps, est peut-être séduisante, qui est bien habillée, etc., mais elle aussi, elle a une certaine torsion, comme si effectivement on allait sortir par le livre, avec tout est évasé, y compris le col, le regard, la torsion, on est dans quelqu'un qui, finalement, cherche à se sortir d'un cadre un peu étriqué. Là, c'est le cas avec Ben Guimard, sur lequel je reviendrai quand on fera le doux, puisque elle était une danseuse extrêmement connue, une star de l'époque, il y a même un château, un hôtel qui a été construit justement par Nicolas Ledoux, etc. Et on la voit ici, donc, une femme qui aussi, par son art, se sort de sa condition, est respectée, adulée, repérée, et n'est pas du tout un petit pantin. Hein, on le voit très clairement. Et puis, vous avez la manière de peindre de Fragonard qui rappelle justement un peu celle de Watteau, c'est-à-dire très vivante, très gestuelle. Hein, là, c'est vraiment quelque chose de... On est dans quelque chose aussi qui se libère, une énergie qui est visible, qui est encore contenue, mais qui cherche évidemment à se sortir et qui semble irriguer ses corps. Et là, d'ailleurs, vous avez, là, dans cette série de portraits de Fragonard, à chaque fois, ce sont des intellectuels, des créateurs, des scientifiques, il y a un militaire, il y a un mathématicien, je ne sais même s'il n'y a pas d'Alembert, etc. Certains, ça c'est un abbé, je ne sais plus qui, ça c'est un scientifique, je ne sais plus qui, avec le globe terrestre, etc. Vous avez un musicien, et regardez, ils sont tous en train de regarder ailleurs. hein, comme cette idée de sortir de ce cadre. Ils sont tous enfermés quelque part, mais leur force intérieure, leur connaissance et leur savoir, parce que chaque fois, leur personnalité, les amène à une sorte d'aspiration à sortir à la lumière. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que Fragonard va y compris accompagner la Révolution française, parce qu'il va y survivre un petit peu. Alors, lui, il va être ensuite, il va un peu être amorti, son art un petit peu tendu va être rangé dans le classicisme où il va perdre un peu sa fougue. Donc le Fragonard, c'est celui qui anticipe un peu la Révolution française, où on voit tout d'un coup ces forces-là, qui sont des forces vives, qui cherchent à sortir, qui ne sortent pas. Donc il y a une sorte de réalité que peint Fragonard de façon assez claire, qui est celle justement de ces forces-là qui ne sont plus du tout caractérisées parce qu'ils seraient aristocrates ou pas. Il y a des aristocrates éclairés. Il y en a là, parmi ceux-là, je ne sais plus qui sont les aristocrates éclairés. Mais ce n'est pas ça qui est caractérisé. Ce qui caractérise, c'est leur force intérieure, leur capacité à réfléchir, etc. Comme des gens, comme Voltaire, etc. Et donc, alors, ce qui est le plus emblématique au niveau de la manière, y compris de peindre, c'est aussi que vous avez, chez Fragonard, une liberté de peindre. C'est que cette liberté, espèce d'énergie intérieure, on la voit, y compris dans le geste pictural, il se détache de ces carcans, de codes académiques, c'est de manière assez évidente. Et aussi avec virtuosité. Montrer que la virtuosité, ce n'est pas forcément obéir à des règles, mais c'est être capable, justement, en quelques coups de pinceau, comme Watteau, de faire surgir la vie, le mouvement, l'énergie, et là, au sens strict, la fougue, les couleurs de bleu, de jaune, etc. Toujours, vous avez aussi quelque chose de très clair au niveau de l'espace représenté. Vous avez vu, avec Watteau, c'est important, cet espace qui se déconstruit. On est dans l'incertitude totale. Là, ils sont tous bien campés. C'est que les structures sont toujours pyramidales. Vous avez toujours une sorte de table, que ce soit chez eux ou chez les femmes, une table ou même chez Diderot. Vous avez une assise solide qui leur permet de s'appuyer et justement de construire. Et vous avez là une pyramide et en même temps, pyramide mais qui est ouverte puisqu'il y a une torsion, on va ouvrir vers l'extérieur. Un petit peu. Et puis alors, Fragonard a quand même aussi, c'est là où Fragonard, c'est intéressant parce qu'il est en même temps, il n'exclut pas non plus, même si quelqu'un de très comme Diderot, c'est pour ça que je les rapproche beaucoup, même si vous avez une importance évidente accordée aux individus, respect des individus, qu'ils soient hommes et femmes, etc., leur création, l'intelligence, etc., vous avez aussi des jeux très très clairs sur la sexualité et l'érotisme, mais ici vous avez des femmes qui sont seules ou entre elles. C'est-à-dire que vous avez ici, il n'y a pas d'abus, ce sont des scènes. Ou de masturbation, ou alors ici c'est le feu aux poudres avec le petit chien avec la queue entre cuisses, etc. Donc de façon claire, ici des jeunes filles entre elles, là vous avez une femme avec un traversin, et vous avez ici un jeune homme, mais c'est un jeu, il apparaît à peine, et on a l'impression que tous les draps, les os sont des chairs, et là on avait un véritable jeu, on est dans une certaine joie, et les corps sont pleins, sont franchement dénudés. C'est là le libertinage de Fragonard ou celui de Diderot, par exemple, n'est pas le même, on pourrait dire, de la manière que Sade, ce n'est pas du tout Casanova. Casanova, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus respectueux, finalement, que Sade. Là, vous avez une froideur terriblement mécanique des rapports aux individus, etc., une sexualité brute et violente, sadique, etc. Casanova, on est quand même dans une relation, à chaque fois, qui est extrêmement étroite entre les Casanova et ses personnages. Et vous avez deux secondes, je termine, que j'ai commencé un peu plus tard. Voilà, justement, Quentin de la Tour. Une autre pastelliste, justement, vous avez aussi des femmes là qui commencent à apparaître très clairement. Regardez celle-ci, Marie-Suzanne Giroux-Rollin, et des autoportraits, pastellistes, portraitistes remarquables, effectivement. Et là, on la voit dans ce portrait absolument où elle fait un autoportrait, sur laquelle elle copie au dessin, au pastel, un autoportrait de Maurice Quentin de la Tour, qui lui aussi, un personnage extraordinaire, qui est présenté là, regardez, extrêmement vivant, complètement en dehors des clous, en dehors des cadres, pas de perruque, pas de costume, etc. Vous avez donc toute une, dans le tiers état intellectuel et artistique, vous avez des forces de liberté prodigieuses, d'invention et de génie, et dans lesquelles vous avez beaucoup de femmes qui sont effectivement totalement impliquées, mais oubliées, même. Moi, j'ai beau la connaître, j'oublie souvent son nom de Rollin. Donc, et on la voit ici, en plein travail, là, un autoportrait absolument magnifique. Et un autoportrait en peintre, ça facilite peintre. Donc, c'est Marie-Suzanne Giroux-Rollin. Donc, voilà. Et bon, ça, je ferai plus tard. Donc je passerai, puisque ça cède un petit peu le coup. Alors, je vais interrompre.